Je suis convaincu que l'Éternel est bon. Je suis convaincu que l'Éternel est bon. Je suis convaincu que l'Éternel est bon. Et je suis convaincu que les voies de l'Éternel sont bonnes. Je suis convaincu que les pensées de Dieu sont extraordinaires. Je suis convaincu que les projets de Dieu sont magnifiques. Je suis convaincu que les desseins de Dieu sont beaux au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il est important en tant qu'enfant de Dieu de plonger nos regards dans les choses de Dieu, dans les desseins, dans les projets de Dieu, dans les plans de Dieu, dans ce que Dieu a mis en place avant même la fondation du monde. Il est important pour un enfant de Dieu de se nourrir de la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Pour vivre victorieusement, joyeusement, puissamment comme nous le désirons, nous avons besoin de savoir qui est Dieu, comment fonctionne Dieu, qui sommes-nous, comment sommes-nous censés fonctionner. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et toute prédication, toute étude, tout thème dans la parole de Dieu est censé nous amener à cette connaissance de Dieu, cette connaissance des voies de Dieu, qui n'est pas une connaissance purement théorique, mais qui doit nous amener à une vraie révélation, au point où tout notre être tremble devant la sagesse de Dieu. Et ce que Dieu nous offre est tellement merveilleux que la parole de Dieu nous dit que même les anges désirent y plonger leur regard. Alléluia. Il n'est pas interdit de dire Amen. Il n'est pas non plus interdit de dire Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la première déclaration de Pierre. Là où il déclare que Jésus est le Fils de Dieu. Là où il a la révélation de qui est Jésus. Nous allons revenir en arrière. Regardons au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» C'est la question que Dieu pose à chaque homme et chaque femme. « Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est la réponse à cette question qui détermine si oui ou non nous sommes sauvés. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Nous avons prié tout à l'heure pour que des gens viennent à la connaissance de Dieu, et non seulement qu'ils donnent leur vie au Seigneur, mais qu'ils deviennent pleinement enracinés dans la maison de Dieu. Ce qui fait que les gens deviennent pleinement enracinés dans la maison de Dieu, c'est la dimension de la révélation de Jésus qui est dans leur cœur. Et cette révélation vient du Père. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu es Petros. Petite pierre, caillou, dans le grec. Et que sur ce roc, Petra, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur ce roc. Beaucoup de discussions sur ce que Jésus voulait dire par ce roc. Alléluia. Je bâtirai mon église. Mais lorsque nous revenons en arrière, nous comprenons que ce qui a fait la différence ici, c'est la déclaration que Pierre a faite que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est cette révélation qui lui est venue du Père. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est parce que nous avons reçu cette révélation que Jésus est le Sauveur, le Fils de Dieu vivant. Et donc, ce roc, c'est cette révélation que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Cette révélation de Jésus comme étant fils de Dieu est le fondement même de notre vie chrétienne. Et c'est ce sur lequel, sur laquelle l'église est bâtie. Jésus dit ici, je bâtirai mon ecclésia. Le mot grec pour église est ecclésia. Je bâtirai mon ecclésia et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors, lorsque nous commençons à nous interroger sur la nature de l'église, la première chose à savoir, c'est que lorsque Jésus parle de ecclésia ici, il utilise un mot très commun, très courant. Ce n'était pas un mot religieux. Aujourd'hui, lorsque vous dites église, tout le monde pense à une structure religieuse. Lorsque Jésus a dit « je bâtirai mon ecclésia », ecclésia dans le grec veut dire simplement assemblée. Et souvent une assemblée gouvernante. Donc, dans toutes les villes, il y avait des assemblées, il y avait des ecclésias qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et ce que Jésus est en train de nous dire, c'est très révolutionnaire. Il dit, je vais bâtir mon ecclésia à moi. Mon assemblée à moi. Mon groupe à moi. C'est pour cela que souvent vous voyez dans les Écritures, où il parle de l'ecclésia en Christ. Parce que les ecclésias, il y en avait beaucoup. Des groupes, des rassemblements, des assemblées. Mais là, il va y avoir une assemblée d'un ordre différent. Celle-ci va être une assemblée en Christ. Et Jésus dit, je bâtirai mon ecclésia à moi. La première chose qui me frappe, c'est le possessif. C'est que l'ecclésia appartient à Jésus. Nous sommes en train de parler de l'église. Nous allons explorer pendant les semaines à venir la nature de l'église. Qu'est-ce que l'église? Parce que nous avons beaucoup d'idées reçues sur l'église. Et puisque nous disons que nous sommes l'église, si nous ne savons pas ce que c'est l'église, nous ne savons pas ce que nous sommes. Si nous ne savons pas ce que nous sommes, nous ne pouvons pas fonctionner comme nous devrions fonctionner. Amen. Alors Jésus parle de mon ecclésia. Alors il y a beaucoup d'ecclésia, mais il y en aura un qui sera le mien. Et la première chose, c'est de savoir que celui à qui appartient l'église, c'est Jésus. Elle lui appartient, c'est son assemblée à lui. Ce qui veut dire que c'est lui qui en définit les contours, c'est lui qui en définit la nature, c'est lui qui en définit le fonctionnement. Amen. Et ça veut dire aussi qu'il l'aime. Rappelez-vous, lorsque nous avons vu dans Tite, il nous a parlé du fait que Jésus s'est donné pour nous, afin d'avoir un peuple qui lui appartienne. Un peuple qui lui appartienne. C'est cela son ecclésia, son assemblée, un peuple qui lui appartient. La première chose à dire, c'est j'appartiens à Jésus. Ce qui nous unit, c'est que nous appartenons à Jésus. Et ça, c'est fondamental. Il dit, je bâtirai mon ecclésia. La deuxième chose, c'est que l'ecclésia sera bâtie, mais sera bâtie par Jésus. Et il dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et ça, c'est très puissant. Ça nous montre déjà, en premier aspect, de la nature de cette assemblée que Jésus veut bâtir. C'est une assemblée, donc, qui doit opérer dans la puissance et dans l'autorité. Parce qu'il déclare que les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc, il y aura conflit, mais elle vaincra dans ce conflit. Il y aura opposition, mais elle va triompher dans cette opposition. Dites à votre voisin, tu es appelé à triompher. Tu es appelé à vaincre. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à fonctionner dans l'autorité. Alléluia. Donc la première chose que nous voyons sur l'église, qu'est-ce que l'église? C'est une assemblée en Christ. C'est une assemblée constituée de personnes qui ont reconnu que Jésus est le Fils du Dieu vivant et qu'il est leur sauveur. La première chose qui constitue l'église, c'est la régénération. Donc Pierre, il nous a parlé de la régénération. Le fait que notre homme intérieur a été transformé, votre esprit est né de nouveau, a été régénéré. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vont à l'église mais ne font pas partie de l'église. Parce que ce n'est pas le fait de s'inscrire comme membre d'une assemblée locale qui fait de nous quelqu'un qui fait partie de l'Église. C'est le fait d'avoir été régénéré. Et c'est ce qui se produit lorsque nous reconnaissons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. La Bible nous dit que nous passons des ténèbres à la vie. Alléluia! Nous passons des ténèbres à la vie. Nous sommes transférés, Colossiens, des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et à partir de là, nous intégrons l'Ecclésia. Parce que c'est le fondement de l'Ecclésia. Regardez avec moi dans Hébreux 12. Hallelujah. God is good to me. Hébreux chapitre 12. Il se passe des choses très intéressantes dans Hébreux chapitre 12. Nous parlons d'une assemblée séparée des assemblées habituelles. Une assemblée différente. Une assemblée qui est en Christ. Une assemblée dont la nature même est d'avoir été régénérée. Une assemblée dont la nature même est d'avoir reçu la vie de Dieu en elle. C'est pour cela qu'il ne faut mépriser personne. Celui qui a reçu Christ en lui a un pouvoir en lui que vous ne soupçonnez pas. Mais c'est à lui de le découvrir. Une capacité divine. Et pourquoi nous faisons ces études? Pour que nous puissions comprendre qui nous sommes en Christ. Et lorsque nous commençons à comprendre qui nous sommes, nous commençons à vivre différemment, à fonctionner différemment, à vraiment expérimenter la plénitude de ce que nous sommes. Mais sans le savoir, sans en avoir la révélation, nous allons continuer à vivre des petites vies médiocres. Mais ce n'est pas votre appel. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Hébreux
chapitre 12. Nous avons vu dans Hébreux 11 cette liste d'hommes et de femmes qui ont tenu dans la foi, des héros de la foi. Et dans Hébreux 12, nous sommes exhortés à continuer dans le même sens qu'eux. Et l'apôtre, pour faire comprendre la grandeur de l'évangile, de ce à quoi nous sommes appelés, la grandeur de la vie de Dieu, la grandeur de ce que c'est l'Église de Christ, au verset 22, il fait une comparaison avec l'ancienne alliance. Alors il leur dit ici, est-ce que vous me suivez? Il leur dit ici, mais vous... Hébreux chapitre 12, au verset 18. « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. » Pour ceux qui se demandent de quoi s'agit-il, il s'agit de la manifestation de Dieu qui s'est produite sous l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament au Mont Sinaï. Donc, il leur rappelle ce qui s'était passé dans le temps pour dire, pour vous, ce n'est pas ça. Et il continue au verset 21, ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Il dit, mais pour vous, c'est totalement différent. Maintenant, c'est une nouvelle alliance.
Alléluia.
Maintenant, il y a quelque chose de différent. Je vais vous expliquer ce que c'est pour vous. Amen.
Amen.
Qui veut savoir ce que c'est pour nous?
Moi.
Hey. Au verset 22, il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors vous allez me dire, c'est quoi tout ça? Il y a une image utilisée pour l'Église dans la parole de Dieu, c'est Sion. Lorsque vous voyez Sion, c'est une image de l'Église. Alors il explique ici, vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, du Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Lorsqu'il parle du cœur des anges ici, c'est un mot dans le grec, pénéguris, qui veut dire une assemblée générale, une assemblée festive. Et il est en train de leur donner l'image. Regardez-vous, c'est autre chose. C'est le Jérusalem céleste. C'est la cité où demeure le Dieu vivant. Vous, c'est un endroit où il y a des milliers, des myriades, des milliers, des milliers d'anges qui sont rassemblés et qui, dans une énorme assemblée générale festive. C'est à ça que vous vous êtes approchés. Si vous faites partie de l'église de Christ, c'est la compagnie que vous avez, environnée dans ce monde de Dieu, où il y a la cité céleste, où il y a ces myriades et ces myriades d'anges qui sont là, qui louent Dieu, qui bénissent Dieu, qui servent Dieu et qui font une assemblée générale extraordinaire. Et ensuite, il parle de l'ecclésia du premier-né, de l'assemblée. Et cette assemblée, c'est nous, l'ecclésia, du juge qui est le Dieu de tous, c'est-à-dire Dieu lui-même. Vous êtes approchés de Dieu. Des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est quoi les esprits des justes parvenus à la perfection? Tous ceux qui sont morts en Christ. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que vous êtes entrés dans une nouvelle famille. Vous êtes entrés dans un monde extraordinaire, un monde céleste, un monde divin, un monde spirituel, où c'est la même, c'est une continuation entre la terre et le ciel. Il n'y a pas de séparation dans l'esprit. C'est comme si vous étiez vous-même présent au ciel, entouré par tous ces anges. Et ces mêmes anges vous entourent sur la terre. C'est un monde spirituel de Dieu dans lequel vous êtes entrés. Et maintenant, vous êtes dans la même compagnie que tous ces esprits de justes qui sont venus à la perfection. C'est le monde dans lequel vous habitez maintenant. C'est l'atmosphère dans laquelle vous fonctionnez maintenant. Et c'est, ouvrez vos yeux pour le voir. Ouvrez vos oreilles pour l'entendre. Ouvrez vos cœurs pour le saisir. Quelque chose de différent s'est produit dans vos vies. Ce n'est plus la religion de l'extérieur, c'est maintenant à l'intérieur que vous êtes, proche de Dieu. Vous êtes venu à Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et c'est cela l'Église. Toutes ces personnes qui sont venues à Jésus. Toutes ces personnes qui sont maintenant dans le même monde que les anges de Dieu. Ces myriades d'anges, toutes ces personnes qui ont maintenant accès à Dieu, constituent l'église de Jésus. Et constituent ces gens dont Jésus parlait lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon ecclésia. » Et Jésus est le médiateur. C'est la même chose que nous avions vu lorsque nous avons vu que Pierre, il a compris que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est exactement ce que nous voyons ici lorsqu'il parle du fait que nous sommes venus à Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Parce que lorsque les gens disent, pourquoi Jésus? Parce que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Et personne d'autre n'est le médiateur de la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Donc nous faisons partie de la maison de Dieu. Comment est-ce que la Bible nous parle de l'Église? Comment Dieu voit l'Église? C'est important pour nous de le savoir. La parole de Dieu nous dit, regardez dans Éphésiens chapitre 2. Alléluia! Jésus s'est donné, nous dit la Bible, pour son Église. Jésus aime son Église. J'ai fait une alliance avec le Seigneur et j'ai déclaré que je vais aimer ce que Dieu aime et je vais haïr ce que Dieu est. Alléluia. Je vais supporter ce que Dieu supporte et je ne vais pas supporter ce que Dieu ne supporte pas. Et la première chose qu'il nous faut garder à l'esprit, c'est le fait que Jésus aime son ecclésia. Ce qui nous appelle, nous, à aimer son ecclésia. Et tous les hommes et les femmes qui en font partie. ce qui nous enlève le droit de ne pas aimer son Église. C'est un privilège. Nous regardons, nous avons été, Dieu nous a fait entrer dans cette auguste assemblée. Il nous a fait entrer dans ce monde spirituel et divin, simplement parce que nous avons accepté Jésus. Et donc, il nous confère un privilège immense. Et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'en étant entrés dans cette assemblée, nous commencions à honorer cette assemblée, à respecter cette assemblée, à aimer cette assemblée et à mesurer le privilège que c'est pour nous d'avoir été acceptés dans cette assemblée. Et quand nous commençons à voir l'Ecclésia comme l'Ecclésia de Jésus, nous commençons à la respecter et à mesurer nos propos lorsque nous en parlons. Parce que lorsque nous parlons contre l'Ecclésia de Jésus, nous sommes en train de parler contre Jésus. Et donc saisir la valeur de l'assemblée en Christ aux yeux de Christ, celui à qui appartient l'assemblée. Ce qui nous fait aussi comprendre que si Jésus tient à ce point à son assemblée, nous devons tenir à son assemblée. Il est mort pour son Ecclésia. S'il est mort pour son Ecclésia, nous pouvons nous donner pour son Ecclésia. Non pas à cause de la valeur des individus qui la composent en eux-mêmes, mais à cause de la valeur du sang de Jésus qui a été versé pour racheter ces individus. Lorsque j'honore Dieu, j'honore ce que Dieu honore. Lorsque j'aime Dieu, j'aime ce que Dieu aime. Dans Éphésiens chapitre 2, est-ce que vous y êtes? Faites-moi signe lorsque vous arrivez. Personne n'y est arrivé. Faites-moi signe. Faites-moi signe. Amen. Thank you, Jesus. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, c'est fascinant. Thank you, Jesus. Je commence au verset 17. Il est venu, il, en parlant de Jésus, annoncer la paix à vous qui étiez loin. Qui peut me dire, j'étais loin? Moi, j'étais très loin. Je ne sais pas, il y a certains d'entre vous, quand vous venez à Christ, vous vous comportez comme si vous étiez juste à la porte. Il a fallu juste qu'il vous touche et vous êtes entré. Nous autres, nous avons l'humilité de reconnaître que nous étions très loin. Amen. Et c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens qui critiquaient la femme qui était venue à qui Jésus a pardonné ses péchés. Jésus lui a dit, tu sais Simon, je suis venu chez toi, tu t'es pas du tout occupé de moi. Mais cette femme, elle est venue, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et parce qu'elle a été pardonnée de beaucoup. Il dit, mais il ne sait pas que c'est une femme de mauvaise vie. Oui, oui, justement. Parce qu'elle, elle reconnaissait qu'elle était pécheresse. Et donc, c'était un honneur pour elle de s'approcher du Seigneur. Elle a reçu le pardon, mais alors, elle a beaucoup reçu et elle a beaucoup aimé. Amen. Et Jésus l'a dit. Celui à qui beaucoup a été pardonné aime beaucoup. Et la première chose pour que nous réellement nous commencions à aimer Dieu comme nous devrions et aimer son Église, c'est reconnaître que nous avons été pardonnés de beaucoup. Et que nous étions très loin. Et il nous a rapprochés. Oh, alléluia. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ça, c'est l'Église, l'Ecclésia de Jésus qui a accès à Dieu le Père à travers Jésus. Et en dehors de l'Ecclésia de Jésus, il n'y a pas d'accès à Dieu le Père. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Dites à vos voisins, ce n'est pas fini. Il y a mieux encore. Alors écoute bien. Au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Amen. Ni des gens du dehors, Amen. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. concitoyens des saints, genre de la maison de Dieu. Nous avons vu dans Hébreux que nous sommes venus aux esprits des justes, qui en sont arrivés à la perfection. Et que nous sommes maintenant dans l'assemblée du premier-né. Et les frères et sœurs qui ont reçu la vie de Dieu comme nous avons reçu, nous avons été intégrés dans la même famille. Nous avons les droits du royaume de Dieu. Et c'est cela qui constitue l'Église. Ça, c'est l'Église, les concitoyens des saints. Nous avons tous nos papiers de nationalité dans le royaume de Dieu. Je suis allée en Russie cette semaine passée et j'ai dû obtenir un visa. Et tout le monde a dû obtenir un visa. Et il fallait faire la queue pendant 3 heures devant l'ambassade. Finalement, après avoir fait la queue pendant presque 3 heures et que j'ai même pas pu quand même entrer dans l'ambassade, j'ai appelé l'organisme pour lequel j'allais. J'ai dit, bon, vous allez vous occuper de ce visa, je n'y retourne pas. Ils s'en sont occupés. Et vous pensez que j'étais au bout de mes peines? Ah non. Parce que arrivé à Moscou, ça s'était plutôt bien passé. En sortant de Moscou, ils ont pris mon passeport. Ils l'ont retourné dans tous les sens parce que je n'étais pas citoyenne. Et d'ailleurs, quand vous arrivez, on vous dit qu'il faut que vous alliez vous inscrire à un bureau quelque part quand vous êtes étranger. Vous avez 3 jours pour le faire. Qu'ils sachent qu'il y a un étranger qui est là. Alléluia. Mais dans le royaume de Dieu, là où on devrait vous faire attendre, on ne vous fait plus attendre. Et l'Ecclésia de Christ est composée de tous ces gens qui sont devenus des citoyens du royaume de Dieu, qui ont leur papier d'identité.
Amen.
Et qui ont droit de citer. Et qui ont le droit de s'approcher de Dieu.
Amen.
Qui n'ont pas à dire, oh moi je peux pas, maintenant je peux. L'Ecclésia, c'est cela. Il dit que vous êtes des gens de la maison de Dieu. Donc l'Église, c'est la maison de Dieu. Dites maison de Dieu.
Maison de Dieu.
Alléluia. Lorsque je suis venue à Christ, j'ai eu une révélation sur la maison de Dieu. Parce que nous avions un chant, mon pasteur à l'époque, il était chanteur, il avait composé un chant sur le fait que nous faisions partie de la maison de Dieu. Et lui, c'était, il l'avait traduit comme household of faith. D'ailleurs, c'était le nom de l'église, la maison de Dieu. Glory to God. Et nous avions ce chant où nous chantions que nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des gens du dehors, nous sommes les gens de la maison de Dieu. C'est extraordinaire de saisir cette révélation. Ça, c'est l'Église. Alors, lorsque nous commençons à voir que Philippe est de la maison de Dieu, Patrick est de la maison de Dieu, Jeanne est de la maison de Dieu, moi, je suis de la maison de Dieu, je conclue en disant, nous sommes de la maison de Dieu, donc nous sommes frères et sœurs. Ça devient une vraie révélation et pas le truc religieux que nous faisons, frère. Frère en pensant n'importe quoi. Alléluia. Des gens de la maison de Dieu. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que l'Église, c'est la maison de Dieu. Ah, glory to God. Je disais la semaine dernière, peu importe la mauvaise coiffure de la sœur, peu importe d'ailleurs le fait que sa robe est un peu déchirée par les bords, ou peu importe le fait qu'elle n'a vraiment pas le sens de la couleur, vraiment, ça, tu sais, le mauve, ça va pas toujours très bien avec ce vert. Peu importe, ce qui compte, c'est le fait qu'elle est concitoyenne des saints. Hein? Qu'elle fait partie de la maison de Dieu, comme moi. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Mais maintenant, nous voyons qui vous êtes en Christ. La valeur que vous avez, c'est qui vous êtes en Christ. Et c'est cela l'Ecclésia que Jésus a dit qu'il bâtira. Je bâtirai mon Ecclésia. Tous ces gens qui ont ma vie en eux, tous ces gens qui ont reconnu que je suis le Fils de Dieu, tous ces gens qui sont maintenant concitoyens de saints, tous ces gens qui, dans toutes leurs imperfections, me reconnaissent comme leur Seigneur. Et la vie de mon esprit est entrée en eux. Alléluia. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous commençons à aimer l'Église. Et quand nous allons quelque part, nous rencontrons quelqu'un qui est chrétien, nous disons, ah, t'es sauvé, amen. Nous commençons à valoriser les frères et sœurs. Je bâtirai mon Ecclésia, mon assemblée à moi, mon assemblée gouvernante, mon assemblée dirigeante. À moi, qui est à moi, qui est différente de l'assemblée du monde. Ce qui veut dire que l'Église, c'est un monde alternatif. Vous n'avez pas encore compris, ça va venir, ça va venir. Au verset 20, ce n'est pas fini, l'Église est la maison de Dieu. Il nous dit, vous avez été édifié. Dites édifié. Édifié veut dire bâti. Exactement. Vous avez été bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Rappelez-vous, sur ce roc, je bâtirai mon église. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Alléluia. Bâti sur Jésus, la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Hé hé hé. En lui, tout l'édifice. L'édifice, donc, c'est l'Église. Jésus est la pierre angulaire. Il est le roc sur lequel l'Église est bâtie. Et ensuite, tout l'édifice. Le frère avec des cheveux courts, la sœur avec des cheveux marrons, la sœur avec le vêtement déchiré, le frère avec les lunettes, la sœur qui est toujours en train de se plaindre, le frère qui n'est jamais à l'heure à l'église, et la sœur... Tout l'édifice. Thank you, Jesus. Tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être en temple saint dans le Seigneur. L'Église est le... Amen pour une personne qui a écouté ce dernier verset. L'Église est le temple de Dieu. Pour être en temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Alléluia. Vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu. C'est quoi le temple de Dieu? Le temple de Dieu, c'est le lieu où Dieu est adoré. Le temple de Dieu, c'est le lieu où Dieu est célébré. Le temple de Dieu, c'est le lieu où Dieu est honoré. Et la parole de Dieu nous dit que vous êtes le temple de Dieu. L'Ecclésia, l'assemblée de Jésus, l'Église, est le temple de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous voit, son temple. Et encore plus que cela, dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, ils construisaient des temples, en temple du moins, Salomon a construit un temple. Et il y avait une partie de ce temple où devait venir et demeurer la présence de Dieu. Lorsque le Nouveau Testament nous dit que maintenant, Dieu ne demeure plus dans des bâtiments, nous sommes l'Église et le temple de Dieu veut dire c'est le lieu, c'est les gens avec qui Dieu amène et manifeste sa présence. Pas simplement une visitation de Dieu, mais une habitation de Dieu. J'expliquais hier à la prière, parce que nous avons commencé, c'était extraordinaire, nous avons chanté en chant. Et nous nous sommes assis et nous allions commencer l'étude biblique très très tôt. Et tout d'un coup, je ne pouvais pas m'arrêter, je commençais à parler en langue. Et je parlais. Et au bout de 2-3 minutes, j'ai commencé à prophétiser sur quelqu'un. Et on est entré dans quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et vous savez pourquoi on entre comme ça dans des choses qu'on n'a pas prévues? Parce que nous sommes une habitation de Dieu. Parce que Dieu demeure en nous. Il demeure dans son église. Et quand on est là, Dieu est là. Et il veut se manifester. Ça, c'est l'église. C'est ceux-là, ensemble, au milieu desquels Dieu se manifeste. La présence de Dieu, c'est un sine qua non pour s'appeler église. La présence de Dieu doit y être. Et Dieu désire habiter pleinement chacun de nous. Et quand nous sommes ensemble, Dieu se manifeste. Ça doit être la chose la plus normale au monde. Cette présence manifeste de Dieu est appelée à demeurer et à s'exprimer dans l'église. Nous sommes le temple de Dieu. Thank you, Jesus. Et je dis toujours, là où je suis, Dieu est. Si Dieu n'y est pas, j'ai un problème. Parce que je fais partie de l'église. Et l'église est le temple de Dieu. Chacun de nous individuellement est le temple de Dieu. L'église collectivement est le temple de Dieu. C'est un appel glorieux qui nous est donné. À nous de décider que nous allons y répondre. Amen. Et que nous allons le vivre complètement et pleinement. Amen. Au lieu de nous laisser limiter par les choses qui nous entourent, Dieu nous a fait entrer dans un monde extraordinaire. Dans 2 Corinthiens 6, verset 16, il dit « Car nous sommes le temple du Dieu vivant ». Dans Hébreux 12, nous avons lu le fait que nous sommes venus dans la cité du Dieu vivant. Ici, il nous dit dans 2 Corinthiens 6, 16 que nous sommes le temple du Dieu vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Amen. Ça, on déclarait tout à l'heure, il est le Dieu de miracles. Yes. Il n'est pas mort, il agit encore. Et il veut agir à travers son ecclésia. Amen. Lorsque Jésus a dit, je bâtirai mon assemblée à moi, il dit, je bâtirai ce peuple qui est à moi, qui fonctionne comme moi, qui pense comme moi, qui parle comme moi et qui agit comme moi.
Amen.
Et ça, peuple, c'est vous. Dites-le aux voisins, c'est toi.
C'est toi,
c'est de toi qui parle. Alors réveille-toi, secoue-toi. Oh, mon ecclésia, l'assemblée de Jésus. C'est pour ça que l'on chante, Jésus est à moi. Je suis à lui, sa bannière, c'est l'amour. Je suis à lui. Un peuple qui lui appartienne. Ah, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous vous rendez compte de ce que Dieu nous offre? Son église, une habitation de Dieu en esprit. La question est de savoir qu'est-ce que j'en fais dans ma vie. Dans Éphésiens 3, je vous encourage, lisez Éphésiens. Très bientôt, nous allons faire une étude sur Éphésiens. Amen. C'est une des lettres qu'on appelle les lettres pastorales. C'est une lettre qui nous donne beaucoup de révélations sur ce que nous sommes en Christ. Dans Éphésiens chapitre 3, au verset 14, il est en train de prier, mais dans sa prière, il nous révèle quelque chose de puissant. L'apôtre Paul. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tire son nom. Dieu est notre Père. L'Église est sa famille. Dans Éphésiens chapitre 1, il parle du fait que nous avons été destinés à être ses enfants d'adoption. Et donc, un des aspects de l'Église, c'est que nous sommes la famille de Dieu. Déjà, nous savons que nous sommes la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, pas dans le sens d'un bâtiment, mais dans le sens d'une famille, d'une assemblée, qui sont ses descendants. Une des grandes doctrines de la parole de Dieu, c'est l'adoption. Que nous, qui étions de l'autre bord, Dieu nous a adoptés. Et il a fait de nous ses enfants. Et donc l'Église est la famille de Dieu. L'Église est le corps de Christ. Jésus est la tête. Et quand nous pensons, Jésus qui dit, je bâtirai mon ecclésia. Éphésiens 1 nous dit que cette ecclésia qui appartient à Jésus, non seulement cette ecclésia appartient à Jésus, mais Dieu chapeaute aussi son ecclésia. Et l'image qui nous est donnée de l'ecclésia de Jésus, c'est un corps humain. Lève-toi bien. Alors, il parle du fait qu'il a mis tout sous ses pieds, sur les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Dites corps.
Corps.
Corps. Corps. Alors, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que l'Église? Cette Ecclésia, ce peuple qui appartient à Jésus. Ce n'est pas simplement une possession de Jésus. Jésus est là, et pour moi, ça, c'est ma possession. Je garde précieusement ma possession. C'est que l'Ecclésia appartient à Jésus, mais il nous a dit que l'Église est le corps de Jésus. Donc, en réalité, ça, c'est Jésus. Tiens-toi droit, s'il te plaît. Un peu de tenue ici. Ça, c'est Jésus. Littéralement, ce que nous dit la parole de Dieu, écoutez-moi attentivement, c'est que ça, c'est Jésus, et ça, c'est moi, et ça, c'est Martine. Alléluia. Et ça, c'est Boris. Et ainsi de suite. Parce qu'il nous dit aussi que nous sommes, nous formons un seul corps. Pour que nous comprenions l'unité qui doit exister dans l'Église, l'amour qui doit exister dans l'Église. Nous formons un seul, spirituellement, nous sommes un seul corps. Et la tête, c'est Jésus. Une unité totale. C'est pas juste une assemblée qui lui appartient. Lui, il est là, bon, ça c'est mon assemblée, hein, c'est bien. Non, 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 ça c'est lui, ça c'est nous, ça c'est nous, ça c'est nous, ça c'est nous. Alléluia. Donc, lorsque vous êtes en train de faire du mal au bras, c'est tout le corps qui est affecté. Et la tête qui vous dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Mais je ne t'ai rien fait, Seigneur, c'est ce frère vicieux-là. Non, mais ce frère vicieux fait partie de mon corps. C'est pour cela que lorsque Jésus a interpellé, rappelez-vous, Saul ou Saül, sur le chemin de Damas, il ne lui a pas demandé pourquoi tu persécutes mon église. Il dit pourquoi tu me persécutes. Il dit, mais qui es-tu? Mais je n'ai rien fait. Ça, c'est le fait que Jésus soit indissociable de son église. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Tu peux t'asseoir, merci. Veille bien sur moi. Je suis là. Vous remarquez, je me suis positionnée très près du Seigneur. Ah! Dans Éphésiens 4, verset 4, il dit, il y a un seul corps. Pensez à cela, un seul corps. Et un seul esprit. Le corps de Christ. L'Église est appelée le corps de Christ. L'Église est appelée l'ouvrage de Dieu. Éphésiens 3 dit, vous êtes l'ouvrage de Dieu. J'aime particulièrement cette description. Parce que Jésus a dit, je bâtis mon ecclésia. Il dit, vous êtes l'ouvrage. Vous êtes ceux qui sont façonnés. Vous êtes ceux qui sont faits par Dieu et qui sont en train d'être façonnés par Dieu. Et nous aimons le façonnage. Amen. Nous sommes en train d'être façonnés, être faits, être posés, être ajustés par Dieu. Dieu a mis sa main en nous, il nous travaille. Et l'objectif de Dieu, c'est qu'il fasse de nous quelque chose de tellement extraordinaire. Que les gens regardent, waouh, 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 c'est encore un chrétien, encore un chrétien, encore un chrétien. Alléluia. 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 C'est pour cela qu'au verset 8 du chapitre 5, il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Et ça, on n'aime pas. Hein? Quand je t'ai pas sauvé, quand les gens venaient me dire, ah, you're in darkness. Comme ça, je suis in darkness. me disant que je suis dans les ténèbres. Oh, ça m'énervait. Ah, qu'est-ce que ça m'agaçait. Je suis chrétien. Non, je disais, c'est born again. C'est chrétien, né de nouveau. Il parlait tellement, il était tellement fier d'être chrétien, tout le monde le connaissait. I'm born again, je suis né de nouveau. Oui, c'est ça, I'm born again. Qu'est-ce qu'on les persécutait? On les détestait. C'était tellement content d'être chrétien. Alors que nous, on sait, n'est-ce pas, que le chrétien, bon. On vit grandir dans l'église, on n'était pas si content que ça d'être chrétien. On dit, bon, pff, écoute, hein, c'est l'histoire de Dieu, on verra. Hein? Vaguement croyants, mais pas pratiquants. Nous autres, on était même plus du tout croyants. Enfin, et eux, ils étaient. Mais vous savez, ils ont jeté, ils étaient tellement là. Hallelujah, glory to God. Amen. Je me dis, oh, ça suffit. Mais ils avaient compris quelque chose. Ils avaient compris qu'ils étaient concitoyens des saints.
Amen.
Ils avaient compris qu'ils n'étaient plus les gens du dehors.
Amen.
Et qu'ils étaient maintenant devenus des gens de la maison de Dieu.
Amen.
Ils avaient compris ce que c'est que d'être nés de Dieu. Et ça se voyait. Ils étaient contents d'être chrétiens. Et ils t'ont rencontré. La première chose, ils te demandaient si tu étais born. Are you born again?
Amen.
What do you mean born again? Hostilité immédiate. Alors, tu es né de nouveau? Je ne vous dis pas né de nouveau. Comment ça? Non, vous autres, avec vos langages. D'accord, comment ça vous dit ça? C'est, il n'est pas né de nouveau. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu veut, à travers l'Église, manifester sa grandeur. Il veut manifester devant toutes les autorités sa sagesse infiniment variée.
Amen.
Ça, c'est l'Église. Ce qui veut dire que lorsque nous faisons partie de cette assemblée, non seulement nous sommes honorés de ce que Dieu nous a accepté, nous honorons d'autres qui en font partie et nous faisons le maximum pour qu'ensemble, nous puissions resplendir. Ensemble, nous puissions rayonner de telle sorte à manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous savez que quand Dieu est venu nous repêcher là où nous étions dans nos péchés, dans notre stupidité, dans notre bêtise et notre ignorance, Satan ne donnait pas chair de notre peau. Le gars, ah, lui là, c'est un bon élément parce qu'il est mauvais. Tu le gardes. Et Dieu est venu nous prendre. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec lui? C'est un mauvais, laisse-le-moi. Et Dieu nous a pris et Dieu a commencé à nous travailler. Dieu a commencé à changer notre cœur. Dieu a commencé à nous donner le désir pour des choses qui, pour nous, franchement, avant.
Amen.
Alléluia. Et Dieu a commencé à enlever des choses auxquelles nous tenions comme fer. Dieu, non, c'est moi. Et parfois, c'était des batailles. Dieu prend, il nous donne. Seigneur, c'est à moi. Non, je sais, ce n'est pas votre cas. Vous êtes, Seigneur, toute ta volonté. Menteur. Parce qu'en général, on fait le « Oh Seigneur, oui, prends-toi, Seigneur. Oui, prends-toi, Seigneur. Oh oui, prends-toi, Seigneur. Ah, oui, pasteur. Je sens la consécration monter dans mes narines. Après, on rentre à la maison et Dieu dit, ça. Ah non, je veux dire, non. Parce que même la sœur qui fait la louange, elle fait ça, alors, non. Mais tu m'as dit de prendre tout. Oui, mais tout, je te veux dire tout. Tout, mais pas tout. Seigneur, tu comprends, je dis, tu parles français. Tout, c'est pas tout. Tu as tout, c'est tout. Mais pas tout, quand même. Mais je vis sur la terre, je suis un être humain, quand même. Alors Dieu prend, non, donne, je ne laisse pas. La prochaine fois, oui, prends tout. Mais ce que Dieu a envie de faire, c'est faire de nous son ouvrage, vous comprenez? Il nous façonne, il nous modèle, il nous transforme. Dans la mesure où nous avons confiance dans le sculpteur. Dieu a de l'expérience. Il a su créer tout ce qui existe. Ça fait des années et des années qu'il travaille les gens. Il a une certaine expérience. Il en a connu des êtres humains. Il en a connu des individus. Il n'est pas à son premier essai. Alors quand il vient commencer à toucher à quelque chose dans nos vies, lui de faire, ah non Seigneur, tu ne comprends pas, tu sais que... Seigneur, je pense que tu sais ce que je ne sais pas. Alors je suis ton ouvrage. Dites son ouvrage. Alors œuvre en moi. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est utiliser son Église, à travers son Église, montrer sa sagesse infiniment variée. Que les mêmes démons qui avant vous commandaient, vous opprimaient, dès qu'ils vous disaient, ne faites pas ça, vous ne faites pas. Non, prie pas ce matin. Non, je t'obéis, je ne prie pas. Mais pourquoi tu vas à l'Église? Oui, c'est vrai, je n'y vais pas. Les mêmes, maintenant, commencent à avoir peur de vous. Dieu manifeste sa sagesse infiniment variée. Son Église maintenant se lève pour dire, tais-toi au nom de Jésus, assieds-toi. Non, ne t'assieds pas, va-t'en. Mais avant, je lui disais tout ce qu'il devait faire. Maintenant, il me commande. Oui, la sagesse infiniment variée de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que Jésus ait une ecclésia qui est à lui. Qui fait ce qu'il veut, qui dit ce qu'il veut et qui aime ce qu'il aime. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ça, c'est l'Église, l'ouvrage de Dieu. Et parfois, ne soyez pas si promptes à vous mettre du côté de quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Parce que parfois, Dieu est en train d'œuvrer dans la vie de quelqu'un. Et parfois, c'est compliqué. Oui, je ne sais pas. Dans cette église, ils disent ça, ils font ça. Il ne faut pas dire, ah bon? Mais moi aussi, on va s'en aller tous les deux. Hein? Parfois, c'est juste que la personne, Dieu est en train d'œuvrer en elle. Il faut dire, oui, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais patiente, mon frère. Dieu œuvre en toi. Alléluia. L'église, j'aime quelque chose qui est dit sur l'église. C'est dit que l'église est la colonne de la vérité. 1 Timothée 3, 14. L'apôtre Paul avait donné des instructions à son fils Timothée. Et il lui dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui est l'église du Dieu vivant. L'ecclésia, l'assemblée du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui vont croire tout ce qu'ils disent à la télévision, mais quand ils viennent entendre la prédication à l'église, ils ne croient pas. Oui, je sais, mais au 20h, ils ont dit ça. D'où vient la vérité? De la maison de Dieu ou de la maison du diable? L'église est l'épouse de Christ. L'église est l'armée de Dieu. C'est merveilleux. Ça veut dire que vous êtes des soldats. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit à son fils Timothée. Lisez les épîtres, Timothée. C'est un père qui écrit à son fils pour qu'il puisse réussir dans la vie et dans son ministère. Tu combats le bon combat. Tu es un soldat de Dieu. Alors lève-toi. Il y a des fois où il faut combattre. Combat. Éphésiens chapitre 6, prenez toutes les armes de Dieu. Tout cela, c'est l'ecclésia de Jésus, un peuple qui combat ensemble. Et vous, en tant que membre de cette ecclésia, vous êtes un soldat qui combat. Et c'est important d'avoir cette vision de la communauté. Parce que nous sommes passés d'un système ecclésiastique où les gens sont nés, les parents les amènent dans une église, ils grandissent, mais ils n'ont jamais connu le Seigneur. Ils ne sont pas venus par la porte des brebis qui est Jésus. Ils ne sont pas passés par cette expérience de Pierre qui reconnaît que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, ils ne font pas réellement partie de l'église, mais ils vont à l'église. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'il faut que chacun fasse son expérience avec Dieu. Il faut que chacun vienne à la connaissance de Christ. Et après, nous avons personnalisé à excès notre relation avec Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons des chrétiens évangéliques et charismatiques qui sont nés de Dieu, qui sont sauvés, mais à qui l'Église, ça ne les intéresse pas. Oh, Jésus n'a pas dit « je bâtirai mon chrétien ». Il a dit, je bâtirai mon assemblée. Dieu, ce que Dieu veut, c'est une assemblée. C'est que ses enfants fassent partie des assemblées. Pas un chrétien individuel isolé dans son coin qui aime son Jésus mais déteste tout le monde. Ah oui, mais les églises. Ah Jésus, amen. Mais Jésus aime son église. Alors, qui suis-je? Je ne comprends pas comment Jésus continue à nous aimer, mais il continue à nous aimer. Et d'ailleurs, il nous a aimés quand on était pire que ça. S'il aime le monde, combien même aimera-t-il ceux qui l'ont reconnu et qui l'ont accepté? Et qui le suivent et qui l'adorent? Alléluia! Alléluia! Donc, nous sommes passés dans l'autre extrême, nous avons tout personnalisé. C'est Jésus et moi. Jésus est mon ami. Nous deux contre le monde entier. Nous deux contre toutes les églises parce qu'elles sont toutes mauvaises. Il n'y a que Jésus et moi qui sommes dans la vérité. Parce que l'église de Christ, la colonne de la vérité. Non pas Béel la sainte, la colonne de la vérité. Donc comprendre l'importance d'être dans l'assemblée, d'être dans le corps et d'être en communion avec ceux qui ont épousé la même passion pour Jésus. Thank you Jesus. Hallelujah. Nous sommes ceux qui portent la vie de Dieu en eux. Je suis toujours émerveillée parce que cette semaine, j'ai rencontré une collègue que je ne connaissais pas du tout, qui habite en Suisse, et on travaillait ensemble, en fait. Et pendant qu'on travaillait, je lui ai raconté une expérience que j'ai eue la veille en allant prendre mon avion. J'étais arrivée à la gare. Et ceux qui savent où j'habite savent que c'est déjà en trotte pour arriver à la gare. Il faut prendre un bus, ça met je sais pas combien de minutes. J'étais arrivée à la gare, j'avais raté mon train, les portes se sont fermées devant moi. Et j'ai dû attendre le suivant. Et c'était en attendant dans le suivant que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout mon passeport et tous mes documents de voyage. Et donc j'ai dû dire bon d'accord Seigneur, en taxi vite. Et j'ai dû retourner chez moi, j'ai même pas trouvé de taxi, j'ai dû prendre un cambus. Mais Dieu a fait grâce parce que j'ai eu un taxi pour l'aéroport, c'était parfait, c'était merveilleux. Donc, je lui parlais de cette expérience et de fil en aiguille, j'ai commencé à lui parler du fait que, bon, dans les transports, j'ai l'occasion d'écouter, je peux utiliser, mon Walkman, mais mon lecteur, et écouter tranquille. Et on parlait aussi des transports, des voitures, etc. Comment dans ma voiture, moi, l'avantage aussi dans la voiture, c'est que j'écoute, j'entends mieux. Enfin, on parlait de toutes ces choses-là et on était arrivé à parler de ce qu'on écoutait. Elle a dit, ah, qu'est-ce que tu écoutes? Vous savez, c'est un de ces moments-là où vous pouvez dire, ah, j'écoute de la musique. Sinon, j'écoute des chants chrétiens et j'écoute des prédications. Des prédications? Mais j'ai dit, mais pas les miennes. Ah oui, parce que tu écoutes des prédications et tu en fais. Bien sûr que j'écoute des prédications. En fait, je lui ai expliqué que j'étais pasteur, etc. etc. Elle s'est trouvée que cette fille était chrétienne. C'est pas courant. Mais elle s'est trouvée qu'elle était chrétienne. Et je ne peux pas vous dire. il y a une entre une collègue comme qui, avec qui on discutait, on parlait comme ça, et une collègue qui est un enfant de Dieu, nos relations se sont transformées. Transformées. Tout de suite, il y avait une connexion qu'il n'y avait pas avant. Je l'aimais bien, elle m'aimait bien, mais découvrir qu'elle faisait partie de l'ecclésia de Jésus, quelque chose a changé. Et nous avons parlé longuement, mais longuement, longuement, très longuement, une connexion. Nous devons commencer à honorer l'Église, parce que nous ne le sachions pas, il y a une connexion en esprit que Dieu a faite. Mais souvent, nous ne le percevons pas parce que nous sommes emmurés dans nos petites histoires. Non, sortons de nos petites histoires. Commençons à voir la grande histoire de Dieu. Alléluia. La grande histoire de Dieu. Une connexion. Pareil au Brésil où j'en ai rencontré un autre et c'était en disant que je cherchais une librairie chrétienne. Si personne ne parle de Dieu, parlez en premier. C'est quand vous parlez en premier que vous allez découvrir qu'il y a des chrétiens qui sont dans la salle. N'imaginez pas qu'il n'y en a pas. Il y en a partout en souterrain.
Amen.
Alors vous parlez, cherchez l'ecclésia partout où vous êtes. Cherchez des gens qui ont reçu une foi aussi précieuse que la vôtre, comme nous dit l'apôtre Pierre. Like precious faith. C'est ce qui nous unit. Nous avons reçu la même foi précieuse. Nous avons été sauvés par le même Jésus. Ce sang extraordinaire qui parle de choses infiniment plus précieuses que qu'Abel est le même qui m'a sauvé et qui a sauvé l'autre personne.
Alléluia.
Alléluia. Honorant l'Ecclésia, Dieu va nous faire découvrir que son Église est grande. Et pareil au Brésil, en parlant du fait que je cherchais une librairie chrétienne, cette personne qui a commencé à parler, et je découvre qu'elle est chrétienne. Un garçon très sympathique, et il m'a même amené à l'Église. Thank you, Jesus. Mais si vous ne parlez pas, vous ne le saurez pas. Donc la vie de Dieu est en nous. C'est cette assemblée qui appartient à Christ et qui a la vie de Dieu en elle. Et qui est appelée à penser comme Christ et à fonctionner comme Christ sur la terre. Parce qu'elle a reçu la vie de Dieu en elle. Je veux que vous vous tourniez vers votre voisin. Et que vous le regardiez. Et que vous lui disiez, tu es né de Dieu. Donc tu es mon frère. Nous faisons partie de la même famille. Nous sommes tous les deux des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes, c'est pas fini, nous sommes l'assemblée de Jésus. Et il a promis de nous bâtir. Donc, bâtissons ensemble. Alléluia! L'assemblée de Jésus. J'aime quelque chose de très fort qui est dit au sujet des rachetés de Dieu dans 1 Pierre chapitre 2. L'apôtre Pierre, il parle de ceux qui rejettent Jésus. D'ailleurs, avant d'arriver là, je voudrais lire pour vous le verset 4. Dans le verset 4, il nous donne une autre description de l'Église. Dans le verset 4, il nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Il parle d'abord de Jésus comme la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes. Et qui a été choisie et précieuse devant Dieu. Et il dit que vous aussi, vous êtes des pierres vivantes. Alors, puisque vous êtes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous. Martine, édifie-toi. Nous savons que Jésus bâtit son Église. Donc, il vous prend par la main. Quand vous décidez, nous allons nous édifier. Nous allons nous bâtir. Nous allons former une maison spirituelle en saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Ça, c'est l'Église. C'est une maison spirituelle. Des gens qui se sont levés pour être des sacrificateurs devant Dieu et offrir des sacrifices agréables à Dieu. Qu'est-ce que l'Ecclésia? C'est ça. Et maintenant au verset 8, il vient de parler de ceux qui sont incrédules, qui ont rejeté la pierre angulaire, qui est Jésus, la pierre de l'angle. Ensuite, il dit au verset 9, vous au contraire. À chaque fois que vous voyez les « vous au contraire » dans la parole de Dieu, soulignez. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Vous êtes une race élue. Merci Seigneur pour une personne qui l'a saisie. Thank you Jesus. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Ça c'est l'Ecclésia, une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. D'autres traductions disent des prêtres et des rois et des sacrificateurs. Royal, parce que nous sommes des fils du roi et des filles du roi. Nous avons du sang royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte, mise à part pour Dieu. Séparé de la pourriture, l'Ecclésia de Jésus. Un peuple acquis. Un peuple acquis, c'est un peuple que Dieu s'est acquis. Rappelez-vous dans Tite, lorsqu'il dit que Jésus s'est donné pour nous, afin d'avoir un peuple qui lui appartienne. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Qu'est-ce que l'Église? Le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Hey! J'ai obtenu miséricorde. Alors quand quelqu'un vient pour essayer de me culpabiliser, et tu ne comprends rien. J'ai obtenu miséricorde. Dieu m'a pardonné. Il ne m'en veut pas du tout. Peu importe qui m'en veille, Dieu ne m'en veut pas. Il n'y a pas de bisbille entre nous. Nous nous entendons parfaitement bien. Alléluia. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et nous avions l'habitude de chanter « We are the chosen generation, a royal priesthood ». A holy nation, a peculiar people, to show forth the praises of him who has called us out of darkness, into his marvelous light, into His marvelous light. Vous chantez ça trois fois, vous commencez à le croire. We are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Nous sommes une génération choisie. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple que Dieu s'est acquis. Un peuple qui lui appartient à lui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis une génération choisie. Élue par Dieu. Dieu a mis la main sur moi et a dit, celle-là, je la veux. Oh, glory to God. Tu ne sais pas pourquoi. J'étais mécréante. Et Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mécréante. Tu deviens mon enfant. Et là, il est en train de se constituer une ecclésia. Et l'objectif dans tout ce que nous faisons, c'est participer à constituer l'ecclésia. Alléluia! En comprenant que Dieu fonctionne en communauté. Il nous sauve individuellement. Mais il ne nous met pas séparément. Il nous sauve individuellement et il nous positionne dans son assemblée. L'assemblée de Jésus. Dans Actes chapitre 1, Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes... » Vous serez mes... L'Ecclésia, ce sont les témoins de Jésus. Ce sont des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus et qui sont appelés à témoigner de lui. Dans les semaines à venir, nous allons explorer davantage ce que c'est l'Ecclésia. Nous allons voir pourquoi est-ce que nous nous rassemblons. Déjà, vous pouvez comprendre de par le sens même du mot « Église ». Ecclésia veut dire une assemblée. Dans le sens même de ce que Jésus a dit qu'il allait faire, nous voyons le sens de assemblée. Une assemblée n'est pas une assemblée si elle ne s'assemble pas. Alléluia. Mais nous allons voir en détail pourquoi s'assembler. Pourquoi se rassembler. Pourquoi se réunir. Qu'est-ce que Dieu a à cœur lorsqu'il nous demande de nous assembler? Alléluia.